Un nouveau rendez-vous de votre émission préférée sur Canal FM. Bonjour à toutes et à tous et merci de vous informer à travers le Club de la Presse. Thomas Datevi à la technique assure la mise en onde. À côté de lui, Jéro Akucha qui se charge de la mise en ligne des différentes sur les différentes plateformes numériques de Canal FM. Vous... Club de la Presse est également suivi sur Radio Lumière à Nehor, Radio La Paix à Takpamé, Centrale FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassar, Sama FM à Niamtougou et Radio Courtoisie à Dapan. Ibin Radio et Radio Les Bénins reprennent aussi cette émission en ligne. Autour de la table ce mardi, Isidore Akolor du journal Actu Express. Bonjour Isidore.
Bonjour Céline, bonjour collègues ici présents, dont je ne veux pas arriver. Non. Bonjour à toutes et à tous.
D'accord. Donatien Aweso, il a plusieurs casquettes, mais nous retenons analyste politique. Bonjour.
Bonjour Fousseni, bonjour à mes co-débatteurs, mes aînés autour de la table, et bonjour à nos fidèles auditeurs qui sont câblés actuellement sur le 93.5.
D'accord. Nous avons aussi une femme sur ce plateau, vous l'avez sans doute deviné, Ambroisine Memédé, bonjour.
Bonjour Fousseni, bonjour chers invités, et bonjour chers confrères, auditeurs, auditrices de Canal FM, abonnés, lecteurs, lectrices de l'agence Savoie News, je vous salue chaleureusement et je profite, hein, Fousseni, tu me permets,
oui,
de faire un coucou au Bénin qui fête aujourd'hui 63 ans d'indépendance et je salue les confrères du Togo et journalistes qui sont sur le territoire béninois en ce moment pour nous faire vivre l'événement. Un coucou spécial à l'envoyé spécial de l'agence Savoie News. Restez connectés, le Bénin depuis 1960, les indépendances en passant par la République populaire du Bénin jusqu'à la République du Bénin. Actuellement, tout se déroule. Daromé qui est devenu en 1960, tu as parfaitement raison, qui est devenu en 1960 République du Bénin et tout ce qui suit actuellement. Le défilé est en cours en direct de la place de l'Amazone et vraiment c'est des moments émouvants que nous ne vivons pas malheureusement mais que nous pourrons vivre à travers nos confrères sur place.
Merci Ambroisine pour ce rappel. Je précise que vous êtes la directrice de l'agence de presse Savoir News. Merci. Nous espérons Eric Johnson du journal L'Union. Merci à vous tous d'avoir répondu à notre invitation. Moi-même, je me nomme Fousseni Saïbou. Voici le débat. Alors, nous démarrons cette émission. Le ministre en charge de la sécurité a communiqué en fin de semaine dernière les chiffres semestriels sur la sécurité routière. Durant les 6 premiers mois de 2023, il y a eu 282 morts et 4611 blessés. Des chiffres en baisse par rapport à ceux des deux derniers semestres, mais toujours alarmants. Et parmi toutes les routes que nous avons au Togo, deux restent les plus meurtrières. Il s'agit de la route nationale numéro 1 avec 114 décès et le grand contournement 25 décès. Alors, pour la route de Saint-Cancy, on peut comprendre que à cause de la distance, plus de 600 km, on dénombre plus de morts. Isidore Akolor, pour le contournement, qu'est-ce qui pourrait justifier ce chiffre élevé chaque semestre?
Non, c'est la non-observance des règles et du code de la route, c'est tout. Sinon, sur cette route, je n'en vois pas. Les faux tricolores fonctionnent, mais les gens ne les respectent pas. Il ne faut pas qu'on puisse poser des gendarmes ou des policiers à chaque bout du contournement. Sinon, à ce niveau, bon, je ne vois pas qu'en principe, il ne devait pas avoir de problème. Il n'y a pas trop de... Puisque ça fait à peine 10 km, même 5. Le grand contournement... Quel contournement vous parlez?
Oui, Dagoué. Oui.
Dagoué.
Oui, oui.
Ah, d'accord. Je pensais que... Le grand contournement dont on parlait souvent, c'est... Au niveau... Quand on parle de grand contournement, c'est au niveau du port... Pour aller.
Oui, c'est la même route qui va jusqu'à Nouépé, je crois.
Voilà. Oui, jusqu'à Nouépé. Effectivement, c'est qu'on n'a pas su, on ne sait pas trop trouver des accotements pour les tricycles, les moteurs à deux roues. Et les, c'est ça qui crée des non-problèmes à ce niveau. Et il n'y a même pas de lampadaire la nuit. Il n'y a pas de lampadaire. Alors que c'est une autoroute, hein. Donc, tu ne veux pas rouler sur ce tronçon à moins de 80-90 km à l'heure. Et les gens se permettent de traverser à tout bout du champ. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Mais j'en reviens encore. Ça ne, ce n'est pas que ça. Et vous allez voir que dans le tout ce qu'on on donne comme statistique, que c'est les moteurs à deux roues qui créent plus de problèmes. Allez chercher pourquoi. Il n'y a pas d'accotement. Les accotements ne sont pas respectés. Et les chaussées sont empruntées avec les gros cylindrés, les véhicules, et les camions remorques. Mais c'est ça le problème. Nous avons de sérieux problèmes au niveau de, comment dirais-je, de nos routes. Et surtout que, moi j'en viens encore, j'ai toujours, ça fait 3 ans, si vous prenez la voie, et tout coin... protestant, le faux tricolore qui est là-bas, ça fait 3 ans que c'est tombé en panne. Et ça crée des accidents là-bas. Même s'il n'y a pas de pertes en vie humaine, ça crée toujours des accidents. J'en ai toujours parlé. Mais rien n'est fait. La dernière nouvelle me dit que c'est Golf 5 qui devait s'en occuper parce que c'est à cheval entre Golf 4 et Golf 5. On dit que ça relève de la compétence de Golf 5. Mais pourquoi ne pas réparer ce feu rouge, le rond-point de l'ancien ministre de l'intérieur, passez-moi le mot. Le vieux là. Bon, bref, si vous dépassez le collège protestant, avant d'abord, il y a un carrefour.
Un carrefour, oui.
Le feu rouge là ne fonctionne pas. Ça fait 3 ans. La clé.
D'accord. Alors, le ministère de la Sécurité et de la Protection Civile révèle que parmi les victimes de la route, on dénombre plus de piétons que de personnes à bord des engins. Alors, à Ouesso, finalement, nul n'est à l'abri de l'insécurité routière.
Bien sûr, d'entrée de jeu, j'aimerais dire au doyen Isidore que j'ai bien saisi ce qu'il a eu à dire, les lampadaires, les feux tricolores. J'en ressortirai cela à l'endroit idéal.
D'accord. Et
voilà, on met ça comme cela. D'entrée de jeu aussi, je veux accuser d'abord nous-mêmes, les usagers de la route. Quand nous sortons de la maison, il faudrait que nous sachions que nous devons revenir sains et saufs. Vous allez voir qu'il y a de l'incivisme grandissant qui est en train de gagner cette population-là, surtout dans la circulation. Un aspect que tout le monde peut vérifier ici, le Togolais n'aime pas céder le passage.
Quand la courtoisie,
je vous assure, tout le monde passe, vous allez voir des gens s'attrouper, veulent traverser la route, mais on ne leur donne pas du tout l'opportunité. Si vous avez gardé ceci, gardons ceci en tête, parce que nous sommes tous usagers, quand vous avez en tête que vous avez des gens derrière vous qui vous ont dit au revoir et qui vont vous dire bonne arrivée, vous saurez comment vous tenir en chemin. Parce qu'il y a des gens qui se foutent réellement de la conduite. Je ne sais pas si véritablement ils savent un peu du code avant de pouvoir grimper sur un engin ou bien rentrer dans un véhicule. Ça, c'est ce qui incombe à l'usager avant de voir l'état de la route. Avant d'accuser l'état de la route, il faut d'abord qu'on voit celui qui est en train d'emprunter cette route-là. Vous allez voir des piétons qui marche sur la chaussée.
Et parce que le trottoir est encombré.
Et alors que des fois, le trottoir est libre. Il y en a, le trottoir est libre. C'est cet incivisme-là qui est grandissant. Maintenant, la route, comme le doyen l'a dit, si on pourrait quand même le faire comme dans les pays assez civilisés, où on a de la place, bien sûr, pour les types d'engins. On sait que c'est par ici que le gros porteur doit passer. Les tricycles, surtout les tricycles, oh là là. Les tricycles qui sont à la fois voitures et motos, qui n'ont même pas les nuits, le gabarit là, qui vous montre réellement la largeur ou bien la longueur de l'engin et nos routes à des endroits qui n'ont pas de passage piéton, qui n'ont pas de passage clouté, qui n'ont pas de dos d'âne à des endroits, et des gens qui filent comme si on était, vous me permettez le terme, dans des films de Fast and Furious. Tout ça, c'est une conscience interne et personnelle que nous devons avoir quand nous sommes sur un engin, bien nous sommes dans un engin. Sinon, véritablement, les morts là, sortir et puis ne plus revenir, ou bien être amputé parce qu'on est, on prend la voie. Et aussi, nous avons des voitures en mauvais état qui ne continuent pas à être utilisées, et que certains agents véreux, bien sûr, il y en a qui font bien leur boulot, qu'on salue, des agents véreux rançonnent et puis laissent passer. Et voilà, on est toujours, on laisse libre cours aux accidents qui sont là, ici et là. Mais primordialement, il faut que celui qui monte sur une route réfléchisse. On m'a dit au revoir à la maison. On me dira bonne arrivée.
Il faut rentrer à la maison sain et sauf.
Voilà,
alors, lors de la traditionnelle présentation de bilan semestriel, le général Yacques Damhan a annoncé plusieurs mesures pour renforcer la sécurité routière, parmi elles, le contrôle des rétroviseurs, des motocyclistes. Alors, c'est vrai que beaucoup d'engins à deux roues n'en possèdent pas. Pourtant, c'est très important. Ambroise Némédé.
Oui, c'est déplorable. On a l'impression qu'ils ne savent pas, ne connaissent pas l'importance des rétroviseurs. À la limite, ils ont et puis l'autre n'existe pas. Et vraiment, je pense que ce contrôle va servir à beaucoup, et aussi le contrôle des casques. Mais il y a quelque chose que je vais souligner. Et d'ailleurs, l'invité l'a dit.
Avant de souligner ça, rappeler que le contrôle a commencé ce matin. Moi-même, en venant, j'ai vu des motos que les forces de l'ordre ont saisies.
Annoncé pour hier.
Depuis
hier, l'opération feu tricolore a démarré. Et quand vous sortez de votre maison, comme l'a dit l'invité, si vous savez que vous représentez toute une famille et que vous sortez pour un objectif et que vous devez retourner chez vous sain et sauf, je pense que vous serez à même de mettre à votre profit tout ce qu'il y a comme prudence, vous entourer de cette prudence-là, aller et revenir sain et sauf. Le ministre l'a dit, le ministre de la Sécurité l'a dit, on ne meurt pas deux fois. Et je vais ajouter qu'il n'y a pas de corruption à ce niveau-là, parce que je sache. Donc faites vraiment attention. Ce que moi je déplore, c'est qu'au niveau des feux tricolores, c'est quand le feu passe à l'orange que les gens se mettent à filer. Et je me suis dit, peut-être il y a une mauvaise compréhension des feux de signalisation. Il va peut-être falloir sensibiliser à ce niveau-là. Quand le feu est vert, c'est qu'il faut passer. Quand c'est orange, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ralentir, il faut filer, qu'est-ce qu'il faut faire avant que le feu ne passe au rouge? Et parfois, quand vous voyez, c'est beaucoup plus au niveau des motocyclistes. Quand il y a quelqu'un qui vient dans l'autre sens ou de la droite et qui doit traverser, on ferme les yeux et on se dit, c'est ce que je lis, hein. Il me regarde, donc il va ralentir. Donc lui, il se presse pour que le feu ne passe pas au rouge, oubliant que l'autre, qui peut-être a la priorité, doit passer. Mais il se dit, bon, il a ses deux yeux en forme, il me regarde, donc il va ralentir. C'est des analyses qui sont vraiment erronées et des positions qui ne sont pas bonnes à tenir sur une route. Parce que quand vous tombez, la façon dont vous appuyez sur votre engin, c'est de la même façon et l'engin vous conduit. Et quand vous tombez, c'est vous qui avez mal, hein, et votre finance. Voilà.
D'accord, dans tous les cas, pour Isidore.
Pour enchérir, au niveau même de l'installation de ces feux tricolores, il y a peu de temps de latence. À l'époque, avant que ça ne vire du vert au rouge, il y a au moins 5 secondes pour que celui qui ne respectait pas le feu rouge puisse passer avant que l'autre là ne démarre. Aujourd'hui, c'est instantané. Je n'ai pas compris.
Entre l'orange et le rouge.
Non, non.
Entre le vert,
le vert et le rouge. De l'autre. Au niveau des intersections. Celui qui vient de la gauche ou de la droite, en principe, quand on installait ces feux tricolores, il y a tant de latence. Quand vous êtes au rouge, il y a 5 secondes avant que le vert ne déclenche de l'autre côté. Ça ne se sent plus.
D'accord. Dans tous les cas,
on ne l'a plus. Bon, on n'a plus cette technologie.
Oui.
D'accord. Et ça crée beaucoup de problèmes.
D'accord. Dans tous les cas, les contrôles ont commencé au niveau des feux tricolores, soit pour arrêter ceux qui n'ont pas de rétroviseur ou pour arrêter ceux qui violent les feux. Éric Danson, bienvenue.
Merci, bonjour chers collègues, bonjour chers amis auditrices et auditeurs de Canal FM. Toutes mes excuses pour ce retard. Vraiment, indépendant
c'est,
de...
C'est inhabituel, on le connaît.
Ok, merci beaucoup.
D'accord, un mot sur...
Non, moi je veux d'abord dire un truc, c'est que par rapport à la présentation de l'état des accidents dans notre pays, on a constaté un glissement annuel, quand même une diminution du nombre d'accidents et du nombre de morts, hein, un glissement annuel par rapport à l'année dernière, c'est-à-dire le premier semestre de 2022. Et ce qui est à remarquer, c'est que aujourd'hui, les causes des accidents, ce ne sont plus les voitures, mais plutôt les véhicules à deux roues, principalement. Il a été dénombré un total de 3306 accidents causés par ces véhicules à deux roues, soit 68,8% des accidents causés sur nos routes. Et donc, quand on a cherché à savoir pourquoi cet état de choses, c'est parce qu'il y a d'abord un facteur prédominant, c'est que les gens ne maîtrisent pas leur engin. On était là quand on a voulu exiger le permis de conduire de ces engins-là. Mais où en est-on aujourd'hui? Ça a été annoncé et ça avait même commencé, mais après, plus rien. C'est la première cause de ces accidents-là occasionnés par des véhicules à deux roues. La deuxième situation, c'est que les gens ne respectent pas les feux tricolores. Aujourd'hui, si on a engagé cette opération-là, justement, c'est parce qu'on a constaté que plusieurs accidents ont été causés par le non-respect des feux tricolores.
Est-ce que ces feux-là
sont... Maintenant, il faut aller voir comment ça se fait. Aujourd'hui, vous avez des feux tricolores qui ne fonctionnent pas. Mais ce n'est pas une excuse pour dire que parce qu'il n'y a pas de feu tricolore, je peux y aller n'importe comment. Mais lorsque vous arrivez à une intersection, il faut savoir que les gens peuvent arriver de tous côtés. Et là, il faut forcément ralentir. Et donc, l'importance du permis de conduire à ce niveau-là. Parce que quelqu'un qui a fait le code sait qu'à une intersection, il faut forcément ralentir. Que ce soit le jour comme dans la nuit.
D'accord.
La troisième cause, c'est l'excès de vitesse, évidemment. Les gens vont à une vitesse incroyable. Parfois, vous êtes obligé, même si vous n'arrivez pas encore aux intersections, vous êtes obligé, vous qui êtes dans un véhicule, de céder le passage à quelqu'un qui est sur un engin à deux roues. Parce que la vitesse à laquelle celui-là arrive, vous ne pourrez pas du tout le contrôler. Donc, mieux vaut céder le passage. Et le plus souvent, lorsque vous cédez le passage, devant vous, vous entendez un grand bruit. Ça veut dire qu'il y a eu un accident. Parce que quelqu'un est en train de passer, n'a pas su que quelqu'un pouvait tout de suite arriver à cette vitesse-là. Et également, on a parlé des signalisations. C'est important. Et je peux finir en disant que les tricycles que nous avons aujourd'hui, parce que je ne sais pas, le ministère de transport est en train de réécrire une loi pour ces engins-là.
Ça avait été annoncé entre-temps.
Oui. Je crois que il y a des améliorations parce que au jour le jour, il y a des difficultés par rapport à ces engins-là, puisque nos routes ne sont pas construites avec des passages pour ces engins à trois roues. Et donc, on est tous sur la même chaussée. Et malheureusement, vous ne savez pas à quel moment ces gens-là vont virer à gauche ou à droite. Et vous êtes dans votre logis, vous continuez tout droit et vous les percutez. Et donc, je crois que aujourd'hui, avec cette opération-là, je ne pense pas personnellement que cette opération-là va continuer ad vitam, parce que d'abord les agents qu'on a mis sur les routes là doivent servir ailleurs, mais on les a ramenés juste pour cette opération. Mais c'est pour réveiller la conscience. Je dis aujourd'hui, il y a eu une baisse de ces accidents-là, on l'a constaté, mais il faut véritablement parler à l'homme, parce que c'est l'homme qui est au centre de ces accidents.
D'accord, pour sortir rapidement, je voulais rebondir sur le respect des intercessions. Il y a des intercessions où la règle de, qu'on appelle-t-on, priorité à droite s'opère. Mais beaucoup ne connaissent pas là où il y a priorité à gauche. Ça, quand tu le dis, même ceux qui ont des permis te regardent comme si tu tombes du ciel. Les intersections, les carrefours à sens giratoire, à ce niveau, ça crée beaucoup de problèmes. Je ne sais pas qui va faire mobilisation ou information ou sensibilisation. Je ne sais pas si c'est au niveau de la direction des services routiers ou aujourd'hui on ne le voit plus, la sécurité routière et prévention routière, on ne le voit plus depuis que le vieux là est décédé. On ne voit plus prévention routière, donc beaucoup de gens, même qui ont des permis, ne respectent pas le sens giratoire d'un carrefour.
D'accord. Merci à vous. Nous allons prendre 5 minutes pour parler de littérature comme tous les mardis. Ambroisine Memédé, nous parlons littérature, un article dans Savard News, la médiatisation des relations France-Afrique, une analyse de décadrages et contrôles éditoriaux, dédicacé jeudi à Lomé.
Oui, c'est un essai de 184 pages, il est subdivisé en 5 chapitres et publié aux éditions Morphy. L'auteur, c'est un prêtre et un journaliste. Il s'appelle Père Gustave Wam. Il est actuellement le correspondant permanent de Radio Vatican au Togo. Et à travers cet essai, il s'est intitulé « La médiation des relations France-Afrique, une analyse des cadrages et contrôles éditoriaux ». Il fait une analyse critique des discours médiatiques contenus dans les quotidiens français. Je vais citer quelques-uns. Le Monde, Le Figaro, La Croix et L'Humanité. Donc, il fait cette analyse-là sur des sujets critiques advenus en Côte d'Ivoire, des sujets liés aux crises sociales en Côte d'Ivoire. Et de ces analyses, il ressort de ces études qu'il a menées que ces rapports d'intérêt sont flous, ils créent un flou entre la France et l'Afrique. Je vous invite à lire cet ouvrage qu'on peut appeler un cours sur la méthodologie d'analyse de discours médiatique.
D'accord.
Et c'est où je vais, Père Gustave Wamé.
D'accord. À retrouver sur le site de Savard News.
Et je vais préciser, celui qui a fait cet article, c'est également un prêtre et journaliste actuellement à Savard News. D'accord. Il s'appelle Jean-Baptiste Takouma, que je remercie.
D'accord, merci. Alors, les Jeux de la Francophonie à Kinshasa, l'artiste plasticien Maoko Obosé et Koku Agbemele représentent le Togo. Eric Johnson, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette participation?
Oui, mais les deux artistes font partie de la délégation togolaise qui est à Kinshasa pour les 9e Jeux de la francophonie. Au-delà du sport, il y a également la culture qui se vend à ces Jeux de la francophonie. Et donc, l'artiste plasticien Maoko Obosé s'y retrouve. Vous vous rappelez, il avait fait une exposition à l'hôtel Onomo et on l'a surnommé Atiklé qui veut dire tabouret, et il a bâti son art sur cet objet qui est très important dans nos cultures. Dans chaque maison, vous retrouvez forcément un tabouret. Et pour la femme, surtout la femme africaine ou togolaise en particulier, Atiklé, ça représente beaucoup de choses. Et donc, c'est la suite logique de ce qu'il a eu à présenter au public ici, qu'il va exposer également à Kinshasa pour les Jeux de la francophonie. Également à ses côtés, il y a l'artiste Kodjo Agbemele qui fait plutôt dans le hip-hop. C'est de la musique également qu'il va présenter à ces jeux-là pour le public. C'est des représentants de la culture togolaise à ces jeux de la francophonie.
D'accord, bonne chance à nos représentants. Et puis cinéma, l'Union Titre, la première ministre Victoire Tomega Dogbe a visité la SNCT. Eric, c'est un soutien de taille.
Oui,
effectivement. La Semaine nationale du cinéma togolais vient d'avoir.
Oui, effectivement, parce que vous savez, aujourd'hui, dans tout ce que nous faisons et qui a trait au développement national, on a besoin du soutien de l'administration. Et donc, cette visite qu'a effectué la première ministre sur le site de la Semaine nationale du cinéma du Togo. Cette visite-là est très importante. C'est pour soutenir justement les professionnels de l'art, du septième art, comme on l'appelle. Et donc, les artistes ont profité de cette occasion pour quand même soulever leurs préoccupations à la première ministre, qui également a demandé aux deux ministres qui étaient là, le ministre de la Culture et du Tourisme et son collègue de la Communication, de tout faire pour que les films togolais puissent être représentés, surtout dans les médias public, surtout on parle là de la TVT où le cinéma togolais n'est pas très représenté. Et donc la première ministre a donné des consignes fermes à ses collègues de la culture et de la communication pour que désormais les films togolais puissent passer au cours des séances de culture sur les chaînes. Et les artistes ont profité.
Vous aurez la parole tout à l'heure.
Les artistes ont profité quand même tout en reconnaissant qu'il y a quand même un cadre que le ministère, que le gouvernement est en train de faire pour eux. Ce cadre-là, mais il est insuffisant par rapport aux besoins dans leur domaine. Et donc, ils ont soulevé beaucoup de préoccupations. Et la première ministre a bien recensé tout cela et leur a promis quand même que le gouvernement va continuer par mener des actions en ce sens-là pour le développement de notre cinéma.
D'accord, merci.
Non, alors, une minute, je voulais réagir par rapport au vœu que je qualifie de pieux de notre première ministre. Mais dans quelles conditions ces films-là seront diffusés? Est-ce qu'il y aurait un contrat? Il y aura des royalties? Toutes ces choses-là doivent être encadrées. Est-ce que la TVT a les moyens
de pouvoir diffuser ces films et, comment dirais-je, récompenser les droits d'auteur. C'est ça, c'est par là qu'il faut commencer. À ce que je sache, la plupart des films qui sont diffusés, en principe, si ça s'émeut là, nous collègues des procès, nous n'avons plus diffusé des films au Togo, hein. On n'achète pas les films. On ne les achète pas.
Peut-être que le gouvernement a pris des dispositions.
Il fallait commencer par là.
Nous avons.
Sinon, ce serait un vœu pieux.
D'accord. Merci,
Eric. Nous avons eu la chance de recevoir ici la semaine dernière quelqu'un qui était à la production, à la TVT,
Folie Basi,
qui nous a un peu expliqué les conditions dans lesquelles les films sont projetés sur la TVT. Et donc, je pense que généralement, c'est des structures de diffusion qui négocient avec la télévision pour que ces films-là soient diffusés. Si c'est des achats, si c'est des contrats de publicité, okay, etc., tout ça là est bien organisé. Maintenant, au niveau de ce que la première ministre a dit à ses collègues ministres, il leur a dit prenez toutes les dispositions pour que les films togolais soient projetés sur les chaînes nationales. Ça veut dire que vous diffusez un film, ça veut dire que vous devez payer des droits. Maintenant, il faut que le vrai souci pour nos cinéastes aujourd'hui, c'est une organisation interne. Ils n'ont pas de maison de diffusion de leurs films. Donc, ils sont obligés, un véritable souci pour nos cinéastes.
On a même plus de ça.
Et je crois que les cinéastes ont bien demandé qu'il y ait quand même une salle où on pourra projeter des films.
Les canaux Olympia qui est ici là. Quels sont les films qu'on projette aux gens?
Merci Isidore.
C'est
007.
Merci Isidore.
En voisin de m'aider.
006.
Je voudrais juste dire que cette septième semaine a été un rendez-vous vraiment remarquable, qui a mobilisé beaucoup de Togolais autour des projections, et pays invité qui est le Niger a vraiment apprécié cela. Je trouve qu'en soi, ce n'est pas mauvais de donner la visibilité à ce que nous faisons. Ce n'est pas mauvais. Et je dirais à l'endroit de la télévision togolaise qui fête ses 50 ans, d'abord bonne fête, et qu'il y a beaucoup plus de créations togolaises diffusées sur notre chaîne. Moi, j'ai eu la chance de regarder ce film-là de Julio Teco, Woman, qui est très, très, très... Mais on se croirait en Europe. Vous voyez, il y a un talent. Il faut que nous aussi, nous intéressions à nos productions. La foi Made in Togo vient de démarrer quelque part. L'idée, c'est la promotion des produits locaux. Et si nous produisons et que nous ne faisons pas partie des premiers consommateurs de nos produits, eh bien, c'est d'autres. Nous irons ailleurs et on va nous parler de notre pays. Et on va se dire, mais tout ça, c'est chez moi. Et je ne souhaite pas cela.
D'accord. Merci, merci. Nous allons sortir de ce sujet. Faisons à présent un tour hors de nos frontières. L'actualité africaine est marquée ce début de semaine par deux faits majeurs. La situation au Niger liée au récent coup d'État opéré par l'armée contre le président Mohamed Bazoum. Et puis le Sénégal qui a renoué hier avec les scènes de violence à la suite de l'arrestation du principal opposant Ousmane Sonko pour, entre autres motifs, incitation à l'insurrection. D'abord, le Niger. Dimanche, la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, ont décidé une batterie de sanctions économiques contre les nouveaux hommes forts du Niger, avec un ultimatum à l'appui. La CEDEAO menace même d'intervenir militairement pour déloger les poutistes s'ils ne rétablissent pas M. Bazoum dans une semaine maximum. Alors, Donatien Awesso, avant de parler des sanctions, un mot sur la situation au Niger.
Un mot sur la situation au Niger, c'est juste que les Nigériens ont décidé de prendre leur destin en main. Et là, il va l'international, disons, la France, surtout, c'est lui qui est le marionnettiste. Il va falloir que la France puisse avoir raison gardée. D'entrée de jeu, nous ne sommes pas pour les putsch. Que les gens comprennent très bien que nous ne sommes pas pour la déstabilisation de l'ordre constitutionnel. Mais à l'action répond la réaction. Lorsque vous me dites bonjour, je ne peux pas vous répondre bonsoir. C'est compte tenu d'une situation. C'est la raison pour laquelle les militaires ont eu à déposer le président. Et ce qui me fait rigoler un tout petit peu, il faudrait qu'on change en même temps le nom de cette organisation. Ce n'est plus la CDAO, c'est une communauté des chefs d'État. Hein. C'est eux qui se retrouvent et puis qui décident. Et ça me fait rire un tout petit peu. Est-ce qu'ils ont eu à décider d'envoyer des troupes pour aller lutter contre le djihadisme qui sévit au niveau du Burkina, au nord du Togo et dans certains pays? Et ici, maintenant, on veut envoyer, des soldats pour aller intervenir au Niger. Et voilà, le Mali et le Burkina sont en train d'être solidaires avec le Niger.
Nous allons revenir sur ce sujet.
Qu'ils le fassent, on va voir. Sinon, ça, franchement, nos chefs d'État, moi je vais le dire ainsi, ils se ridiculisent. Et bientôt, sans le savoir, la CDAO risque d'imploser. Par eux-mêmes, leur agissement. S'il y a eu, on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Il faudrait d'abord comprendre les motivations. Et une partie aussi qui m'a fait un peu rire, là, c'est le Tchadien qui est allé. Il va faire quoi là-bas?
Il
est venu comment?
Nous allons parler tout à l'heure.
Des fois, ça fait que les jeunes que nous sommes, il y en a encore plus jeunes que nous qui nous posent des questions, nous qui avons mis pied en politique. C'est quoi véritablement ce que vous faites là? C'est ridicule. Donc, que les Français, que la CDAO laisse le Niger faire ce qu'il a à faire, ne pas s'ingérer dans leurs affaires internes. Moi, je suis pour, mais je ne suis pas, bien sûr, pour la déstabilisation de l'ordre constitutionnel. Laisser les Nigériens, bien sûr, prendre leur destin en main. Est-ce qu'ils ont à faire? Qu'ils le fassent, mais qu'on ne nous dise pas qu'on va envoyer des militaires. Ils vont faire quoi là-bas?
D'accord. Isidore Akolor, un mot.
Non, foncièrement, je suis contre les coups d'État. Constitutionnel, institutionnel ou militaire. Et je suis au regret de rappeler que c'est le Togo qui avait initié ces coups d'État en 1963. Je suis foncièrement contre. Mais si nos États ou nos organisations ne peuvent pas s'émanciper des tutelles des Occidentaux, mais alors là, je serais d'accord avec ces coups d'État. C'est pas si vous me comprenez.
Oui, clair.
Mais quand une organisation comme l'Union africaine, la CDAO, devient des sous-fifres de la France, mais où se trouve notre liberté? Où se trouve notre
souveraineté?
C'est ça le mot. Ouais. C'est ça. C'est en cela que je salue la sortie des Burkinabés, le Malien, et j'ai entendu
de la Guinée aussi.
De la Guinée, qui sont solidaires et que toute intervention au Niger, par la force, serait une déclaration de guerre. La CDAO n'est plus une CDAO des peuples, mais c'est un syndicat des chefs d'État. On l'avait eu à le dire, et Condé, à l'époque où Faure Gnassingbé perpétrait son coup de force pour le troisième mandat, il a dit que nous ne sommes pas un syndicat de chefs d'État. Et finalement, mais c'est ce qu'on a. Et c'est ce qui s'est perpétré. D'accord. La Côte d'Ivoire, en commençant par le Togo, les histoires de troisième mandat, il faut limiter les mandats. Ah, on nous dit que non, est venu ça, il faut que je le rappelle. C'est Faure Gnassingbé qui était le président de la commission des lois quand on avait changé la constitution en 92. Il est bien impliqué là-dedans. Quand on dit qu'il est revenu, il est venu voir ça. C'est faux et archi faux. Il y a la loi et l'esprit de la loi. Respectons l'esprit de la loi. On avait dit en 92, en aucun cas, nous ne pouvons faire plus de deux mandats. Est-ce qu'on l'a respecté? D'accord. Et c'est ça qui s'est perpétré.
D'accord.
Aujourd'hui, on constate Macky Sall, Mutété, peut-être on va encore en revenir.
Nous allons en parler.
Oui. Mutété, la vigilance des Sénégalais,
Mais il a répété comme et Ouattara l'avait fait, en éliminant les autres.
Oui. D'accord, merci Isidore. Alors, je le disais tantôt, la CEDEAO et l'UEMOA ont pris un certain nombre de sanctions contre les nouvelles autorités du Niger.
On n'a pas le mot à dire.
Oui, vous allez dire, vous allez dire. Alors, ces sanctions, apparemment, sont très corsées, Eric Johnson.
Laissez-moi dire tout d'abord que pour tous ceux qui aiment la démocratie, un coup d'État est tout de suite condamné.
Pas principe.
Le principe, c'est que tu es démocrate, tu n'acceptes pas un coup d'État.
Voilà. Le principe des essais.
Maintenant, pour aller plus fort, quelle que soit la raison, il faut l'ajouter maintenant. Quelle que soit la raison. Aujourd'hui, nous tous, nous parlons de djihadisme, de terrorisme et tout ça. Qu'est-ce qui est à la base de ça? La première chose, c'est l'instabilité dans la sous-région.
La malgouvernance, d'abord.
L'instabilité. Alors, en perpétrant un coup d'État, on en rajoute à cette instabilité. Il ne faut pas l'oublier. La deuxième chose, lorsqu'on fait un coup d'État, ça veut dire qu'on renverse les institutions démocratiquement élues et on met en place quoi? On parlera d'une transition. On est en train de voir une transition en Guinée qui ne finit pas. Lorsqu'on fait une transition de plus d'un mandat présidentiel, ça veut dire qu'on rentre, on n'est plus en démocratie là, on est dans la dictature. Et lorsqu'on fait un coup d'État, on donne une brèche à ceux qui ont déjà des idées de venir faire ce qu'ils ont à faire. Ce qui se passe en Guinée, ce qui se passe au Mali, ce qui se passe au Burkina, nous sommes en train d'analyser globalement cette situation pour voir à peu près ce qui peut se passer au Niger. C'est vrai, comparaison n'est pas raison. Toutefois, je pense personnellement que quelle que soit la raison qu'on va évoquer aujourd'hui, il faut qu'on arrête les coups d'État.
D'accord.
Maintenant, oui. La CEDEAO.
Sur les sanctions.
Sur les sanctions. Vous savez, nous sommes en train de casser un outil que nous avons. La CEDEAO, on dit que ce n'est plus la CEDEAO des peuples, mais la CEDEAO des chefs d'État.
Le syndicat.
Le syndicat
des chefs d'État. Le syndicat des chefs d'État. Pourquoi? Voyez-vous ce qui se passe un peu en Ukraine? Tout simplement parce que il y a une guerre. Mais au cours de cette guerre-là, il y a ce qu'on appelle le respect de de la convention des guerres. Parce que les civils ne vont pas au front, on ne doit pas porter atteinte à la vie des civils. Mais ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que les Occidentaux sont en train d'armer l'Ukraine. Mais tout en le faisant, ils demandent à l'Ukraine de respecter les droits humanitaires. Et vous allez constater que, pas plus tard que ce matin, il y a eu des attaques de drones à Moscou. Mais on a pris soin de ne pas faire tomber ces drones-là dans des milieux où il n'y a que des civils.
D'accord.
Et donc, je dis, la CEDEAO est un instrument qui devrait normalement nous permettre d'arriver à un niveau. Aujourd'hui, tout le monde crie la CEDEAO des présidents, là, tout simplement parce que lorsqu'il y a des situations de crise, la CEDEAO prend des mesures et à la fin, on constate que, au fait, c'est les chefs d'État qui restent à leur poste. Et donc, ça donne comme l'impression que rien n'a été fait, malheureusement.
D'accord.
Pour le Niger, je dis tout simplement que ces sanctions-là ne vont pas toucher forcément les putschistes, mais plutôt les populations civiles.
D'accord. Ambroisine Memédé, un mot sur la situation au Niger.
Alors, c'est vraiment déplorable. Hein? C'est déplorable quand on arrive à ces situations. Ceux qui perdent beaucoup plus, ce sont les populations. Quand on voit ces trois pays, qu'est-ce qu'ils ont en commun? C'est ce phénomène de djihadisme que nous déplorons tous. Et peut-être des sauts d'humeur, des mouvements d'humeur liés avec le colon ou la France. Et moi, je veux dire, hein, aujourd'hui, la CEDEAO, la position de la CEDEAO, peut-être qu'il faut retourner au test de l'institution pour voir sur quoi la CEDEAO se base pour se prononcer ainsi. Mais je veux aussi dire qu'il faut faire aussi aller, la CEDEAO doit aller, comme on le dit, mollo, parce que la famille des putschistes s'agrandit. Non seulement elle s'agrandit, mais elle se soutient. Voyez-vous. Donc, c'est ce que j'ai à dire.
Je donne la parole à Wissou d'abord.
Juste pour compléter.
Oui.
Au fait, la CEDEAO se fourvoie. Dès sa création, la CEDEAO n'a pas une visée politique. C'était une union économique. La CEDEAO pouvait s'en tenir à sa mission de pouvoir s'aligner au niveau, faciliter les échanges économiques et commerciaux. Maintenant, quand c'est devenu une CEDEAO politique, il se soutient dans le mal.
Est-ce qu'il n'y a pas au sein des commissions chargées de questions politiques?
Bien sûr. Si vous avez vu la charte, la première charte, j'ai eu l'occasion de lire ça.
Alors,
c'était un projet de Sylvestre Olympio.
Oui.
Qui a été réchauffé et que Eyadema a porté et a sollicité Yakubu Gowon. Ça, allez visiter cette test-là.
Je dis, il y a certainement des commissions chargées de différents.
Non, après est-ce qu'ils ont évolué, ils ont évalué ça.
Mais
le général Béhanzin, qu'est-ce qu'il a fait? Le général Béhanzin,
à tour de rôle, s'il vous plaît.
Où est-ce qu'il est actuellement? Qui était venu ici nous donner des leçons particulières? Où est-ce qu'il est actuellement? Le Béninois.
Ambroisine,
vous avez la Béhanzin. Qui s'occupe de la sécurité de la CEDEAO? Où est-ce qu'il est actuellement?
Je dis ça, doyen, je dis ça parce que tu te souviens au temps de. Qu'on appelle. Le président Adama Barrow, la CEDEAO était sortie également. C'est sur ça que je me base. Vous me dites qu'il y a certainement des commissions chargées.
Ce qui est sûr, ce qui est sûr, les chefs d'État ne viennent pas discuter entre eux pour prendre une décision. Il y a d'abord en amont des travaux en commission et on fait des propositions.
Merci à vous tous. Merci. Je vous laisse la parole. Donatien Wesso, dans le cas du Mali, les sanctions économiques imposées par ces instances n'avaient pas vraiment donné des résultats escomptés. La preuve, c'est que les cinq colonels sont toujours au pouvoir. Est-ce que cette fois-ci, ça va marcher au Niger?
La sœur Ambroisine a eu à le dire que la famille des putschistes s'agrandit et puis ils se soutiennent entre eux. Et moi, je ne dirais pas qu'ils se soutiennent dans le mal. Je le dirais toujours que c'est l'action qui a conduit à la réaction. Il va falloir qu'ils puissent les comprendre que de donner cet ultimatum de une semaine. Moi, c'est ridicule pour moi. Donc, dire qu'ils vont sanctionner le Mali, c'est
le Niger.
Parce que bon, le Mali aussi a eu à recevoir ses paquets de sanctions, a sanctionné le Niger. C'est seulement sanctionner, je veux dire, des pauvres populations. Hein. Ce sont les populations qui bougent un tout petit peu, qui vaquent à leurs occupations. C'est elles qui en pâtiront. Ce n'est pas les colonels, les généraux au pouvoir qui vont, disons, en pâtir. Mais pour revenir encore, je dis que cette CEDEAO doit s'asseoir, comme se fourvoyer. Hein. C'est comme un serpent qui se mord la queue. Elle-même, on va le dire, la CEDEAO doit savoir que son rôle actuellement, c'est soutenir hein, bien les chefs d'État, entre eux, se soutenir hein, là-bas, je dirais, dans le mal. Ce qui m'offusque, c'est que lorsque il y a de ces choses-là dans certains pays, il y a le bafouement des droits de certaines populations, cette CEDEAO ne condamne pas, ne dit rien. Et quand on touche un tout petit peu à un chef d'État qui est un des leurs, parce qu'il se retrouve dans leur loge, on sort l'artillerie lourde, on dit on sanctionne ici et là. Je ne suis pas d'accord. On le répète encore, nous ne sommes pas pour le renversement de l'ordre constitutionnel. Un démocrate ne peut pas accepter cela. Mais quand, bien sûr, c'est comme on est major dans une classe, quand ça ne passe pas, on va te destituer. Si le fond, tu sais qu'est-ce que quelque part. Et là, tu comprendras que ce que tu es en train de faire n'est pas bien.
D'accord.
Voilà.
D'accord. Donc, merci de lancer.
Eric Johnson, que oui. La CEDEAO joue sa crédibilité. Hein. Oui. Une semaine, je vais voir ce que la CEDEAO
voilà, peut faire. D'accord. Merci. Eric Johnson. De toute façon, je ne pense pas que la CEDEAO en viendrait à l'utilisation de la force. Et ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que quand on donne, c'est juste mettre un peu la pression à un certain niveau pour voir.
Une semaine.
On verra tous. La CEDEAO n'utilisera pas de force militaire pour
quand la France aller à la patrie.
S'il vous plaît.
Imaginez que ce qui se prépare.
Non, je crois qu'il y a plusieurs médiations qui se font aujourd'hui au-delà de ce que propose le Tchad, puisque en réalité c'est pas la CEDEAO qui a demandé aux Tchadiens d'aller discuter avec les putschistes au Niger, mais c'est une décision propre à Déby, Mahamat Déby, pour aller.
Est-ce que ce n'est pas la CEDEAO?
S'il vous plaît, terminez.
Non, je dis, c'est ce que j'explique, que c'est pas la CEDEAO qui l'a mandaté.
C'est une démarche personnelle.
Oui, mais c'est une démarche personnelle.
D'accord.
Je l'explique bien.
D'accord, merci Eric.
Oui.
Alors, Isidore Akolor, dans un communiqué lu à la télévision nationale nigérienne, les militaires accusent la France de préparer une intervention militaire en complicité avec certains proches du président Bazoum. Et rappelons au passage que la France a plus de 16 000 hommes dans ce pays.
Évidemment, c'est la seule base qui restait.
Voilà, si
la France,
si c'est confirmé.
C'est tout. C'est l'enjeu même du Niger.
Voilà, si c'est confirmé.
Et on a mis tout en œuvre pour pouvoir les diaboliser.
Oui. Oui, Isidore, si c'est confirmé, est-ce que la France a le droit de faire ça?
Ah oui.
D'intervenir.
Mais De Gaulle l'a dit. La France n'a pas d'amis.
Voilà.
C'est ses intérêts. Vous n'avez pas suivi les sorties intempestives de Macron comme si. Le Niger est une préfecture.
Sous-préfecture.
Sous-préfecture de la France. Nous n'allons pas accepter ça. Nous n'allons pas accepter ça. Je suis d'accord avec les poutistes. Que la France vienne faire ce qu'il veut. Peut-être quand ils vont demander à la France de rapatrier ses éléments, de bannir sa base, y compris les États-Unis.
Il y a d'autres bases militaires, notamment de l'Allemagne, de l'Italie.
Oui, donc c'est un précaré pour les Occidentaux. Ils sont en train de perdre ça. Peut-être après, ce serait le Togo ou le Bénin qui vont accueillir ces bases-là. Hein.
Et là, d'accord. Je peux dire que c'est un peu la faute à nos dirigeants qui ont un tout petit peu hypothéqué nos pays africains dans les mains des Occidentaux. Hein, parce que ce sont eux. Hein, qui ont voulu bien sûr garantir leur position de par le passé et qui ont donné ces terres-là, je veux dire, voilà, les pays-là, à ces Occidentaux, venez et puis donnez-nous la protection, faites ceci, nous vous accordons l'extraction ou bien la transformation de tels gisements, etc. Voilà. Et voilà, aujourd'hui, la nouvelle génération ne veut plus, mais ça sera un combat de longue haleine, c'est pas pour finir ici.
D'accord. Aujourd'hui. Et puis, les poutistes du Niger. Oui, Ambrasine.
Je dirais que, en parlant de l'intervention de Déby, il faut pas oublier que son pays a une frontière avec le Niger. Le Niger, okay. Et donc, c'est aussi un général.
D'accord.
Aussi un général.
D'accord.
Et parlant de la France, vous vous souvenez, qu'après le départ des troupes Barkhane du Mali, et le fait que le Burkina a chassé les forces spéciales, il n'y a que le Niger qui est... Et ça a créé une polémique et autour de cette intervention.
La Côte d'Ivoire aussi, il y a une base.
Voilà. Mais depuis, plus ce Niger a demandé et obtenu, je pense, 1500 hommes pour renforcer son armée et ça des troupes venues issues de ces... Donc, je pense que c'est sur ce point-là que la France, le départ de Bazoum, le fait de Bazoum, la France est liée au départ de Bazoum. C'est ça qui fait aussi... Et l'information qui est aussi, qui diffuse dans la masse, fait que la France est un peu collée à Bazoum et ses intérêts se voient un peu...
D'accord. Éric Johnson, les poutistes du Niger qui reçoivent les soutiens de ses voisins, le Mali, le Burkina Faso et la Guinée, les deux premiers menacent dans un communiqué commun d'intervenir militairement contre les forces de la CDAO en cas d'attaque contre les poutistes nigériens.
Qui l'a dit?
Non. Il y a eu un communiqué.
Un communiqué officiel.
Officiel, oui.
Je voudrais dire ceci. Quand vous parliez tout à l'heure de la France, aujourd'hui, ce qui se passe au Niger, c'est que les forces françaises qui sont au Niger sont sous le commandement des forces nigériennes. Ça, c'est très important à savoir. Ça veut dire que les forces...
Ça, c'est sur papier.
Oui, mais si c'est sur papier, ça veut dire que avant, c'était pas comme ça. Les Français sont dans votre pays, ils agissaient sous le commandement de leur état-major. Mais aujourd'hui, avec la situation là, les Nigériens ont décidé d'être le commandement de la force française au Niger. Maintenant, l'annonce de ce soutien-là a été faite par le porte-parole des poutistes. Et donc, quand il s'agit de quelqu'un qui est dans l'action, qui vient faire un communiqué de ce genre...
Non, c'est pas, il y a eu un communiqué.
Je t'explique pourquoi, moi, je me dis, aujourd'hui, le Burkina et le Mali font intégralement partie de la CDAO. Et donc, toute décision de la CDAO incombe à ces deux pays-là. Maintenant, ils ont dit que... Maintenant, ils ont dit que si la CDAO intervenait, qu'ils allaient se retirer de cette organisation. Moi, ce qui me préoccupe, est-ce qu'on irait à cette situation de force.
La confrontation,
personnellement, je ne la crois pas. Je le dis parce que il y a des médiations qui se font.
C'est du bluff.
Il y a c'est pour mettre la pression.
Au cas où ça ne marche pas, la médiation.
Parce qu'on dit, on va prendre des décisions et s'il le faut, aller à la force.
Qu'on a déjà positionné, des gens.
D'accord.
Au Nigeria.
Merci.
Nous allons marquer. RFI, tout ça, Tinubu,
nous allons marquer une pause et on revient.
On n'ira pas là.
dire. Pour l'acquérir, écoutez Canal FM 93.5.
Nous revenons pour la suite de cette émission. L'heure est réservée aux auditeurs. Déjà, nous avons un auditeur en ligne. Allô? Allô?
Allô, bonjour.
Bonjour, c'est monsieur?
Oui, papa Sordiné.
Papa Sordiné, on vous écoute.
Bonjour. Ce que moi je voudrais dire est que on dirait que la CEDEAO a failli à son test de création. Sinon, on disait la libre circulation des personnes et des biens. C'est pour une nation, je dirais, de communiquer, de communauté sociale pour le commerce, pour la libre circulation des personnes. Mais s'il y a quelque chose maintenant, la CEDEAO n'intervient pas aux côtés de la population. Il intervient peut-être surtout des chefs d'État, ce qui est mauvais.
D'accord.
Donc, bonne journée.
Merci à vous. Merci. Allô?
Oui,
allô? Oui, bonjour.
Oui, c'est Bankole.
Monsieur Bankole, on vous écoute.
Oui, je salue tout le monde au plateau là-bas.
Merci.
Et dire qu'il faut intervenir au Niger pour récupérer le président Bazoum, à mon avis, serait...
Oui, on vous écoute. Allô? Allô? Vous êtes là, monsieur Bankole?
Oui, je suis là.
D'accord.
Allô?
Oui, allez-y.
Oui, je disais que lorsque la CEDEAO dit vouloir intervenir si les putschistes ne réagissent pas, ce serait une grave erreur, hein? Et cela aura de graves conséquences. Et il faut comprendre, ne soyons pas dupes. Il faut comprendre que c'est la France qui a la manette. Et nous demanderons tout simplement à la CEDEAO de se ressaisir. Pour que la CEDEAO se ressaisisse et qu'elle repense autrement les choses pour ne pas aggraver la situation.
D'accord.
Je vous remercie.
D'accord, merci M. Bankole. Allô? 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 Oui, bonjour.
Allô, bonjour.
Bonjour, c'est Madame Essie. On vous écoute.
Oui. Vous avez parlé des coups d'État.
Oui.
Des coups d'État en Afrique. Et il faut dire que l'Africain ne sait que faire ça. L'Africain ne sait que faire des coups d'État. Et puis, et c'est trop facile. Hein? Ça, là, il faut que ça s'arrête parce que tout le monde peut faire une formation militaire et puis s'organiser pour braquer une république ou piéter les lois de la république. Et puis, ils ne pratiquent jamais la démocratie. Ils refusent d'alterner. Hein? Puisque les gens ne pratiquent pas la démocratie, ils règnent pas la force, avec la force, quoi. Il faut arrêter ça. Il faut commencer par les procès. Il faut commencer par des procès pour faire avancer le continent, quoi.
D'accord.
Hein? Et puis, la CEDEAO pourra faire quoi? Tous ceux qui sont là-bas, c'est des petites militaro-constitutionnels, quoi. Hein? Ils sont pas crédibles. Hein? Et puis, ça y va comme ça. Hein? Il faut que ça s'arrête, qu'on commence le procès pour que les États respectent les lois.
D'accord.
Les lois qu'on fait donner.
D'accord.
Pour pas qu'on vive dans la jungle.
Mmh. Ok.
Merci.
Merci beaucoup. Allô? Allô? Oui, bonjour.
Oui, bonjour, chef.
C'est monsieur?
C'est Sylvain.
Monsieur Sylvain, on vous écoute.
Oui, c'est ce que madame ici vient de dire. Il faut qu'on respecte nos lois. Les lois que nous sommes données, il faut qu'on les respecte. Et puis, il faut que ces chefs d'État mettent un peu de l'eau dans leur vin. Parce que intervenir militairement, ça poserait un problème pour la sous-région. Il faut qu'on trouve quelque chose de mangeable pour nous tous, nous les Africains. Merci.
D'accord, merci, monsieur Sylvain. Allô? 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 Il n'est pas en ligne. 22 21 33 74 22 20 19 68. Allô? Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, Canada FM.
C'est monsieur?
C'est monsieur Richard depuis Copenhague, depuis le Danemark.
D'accord, monsieur Richard, on vous écoute.
Oui, j'aimerais intervenir sur la décision de la CEDEAO. Je pense qu'ils n'ont même pas de temps à perdre. Il faut aller mater ces bandits. Vous voyez, ça prend de l'ampleur. Au début, ça commençait par le Mali, le Burkina, la Guinée. C'est comme ça que ça doit prendre l'Afrique de l'Ouest. Il faut arrêter ce virus. C'est un virus qui est en train de se prendre. Il faut les arrêter. Il faut arrêter cette connerie.
D'accord. Merci beaucoup. Merci, monsieur Richard. Allô? Allô?
Allô, oui, bonjour.
Oui, bonjour. C'est monsieur, diminuez le volume de votre poste récepteur.
Robert.
Allô? Diminuez.
Oui, allô, Robert.
Ok. Monsieur Robert, on vous écoute.
Pour les accidents au Togo, là, moi, à mon avis, c'est l'inconscience et l'incivisme. C'est ce qu'on a déjà dit. Ce n'est pas le papier, le permis, qui est le point culminant, qui est la première partie. La première place. Non. L'exemple est très clair. J'ai maintenant 67 ans. Mais avec ma moto depuis 82, je n'ai jamais eu d'accident. Mais je n'ai pas mon permis. Mon beau-frère, lui, il a le permis A et le permis B de la voiture. Mais à chaque fois, il fait d'accident avec sa moto. Jusqu'à la fois passée, il est mort par l'accident avec sa moto. Mais je suis plus âgé que lui. Peut-être aujourd'hui, il a 45 ans ou bien 48 ans. Vous voyez ça? Donc, c'est l'inconscience et l'incivisme. Si on pouvait prendre le temps à sensibiliser la population qui utilise la moto, ce serait très bon. Merci, bonne journée.
D'accord, merci, M. Robert. Allô? Allô? Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
C'est monsieur?
C'est Natema.
Monsieur Natema, on vous écoute.
Ah oui, je vais parler. Vous savez ce qui se passe au Niger actuellement. Les chefs d'État, c'est le général qui a fait un coup d'État. Si vous rentrez dans sa pensée, vous allez trouver ce qu'il y a. Macron dit la vérité tous les jours. Comment vous avez dit ça même? Comment les Blancs vont venir nous commander jusqu'à ce jour? Non! Ils n'ont qu'à rentrer chez eux. Partout là, dans la CEDEAO, ils n'ont qu'à quitter. Les Français n'ont qu'à rester chez eux. Les militaires, ils n'ont qu'à rester chez nous. Chez eux. Nous, on reste chez nous. Nos militaires peuvent travailler. Non, quand c'est clair, soyons clairs. Le problème, c'est la base. Je vous ai dit que qui arme les rebelles? Qui les arme? La France fait semblant d'être l'avocat, mais elle est avocat du diable. Depuis la Libye, Sarkozy a créé quoi là-bas? Ils ont fini de tuer Kadhafi et on a vu la chaîne des 4x4 venir atterrir au Mali. Et ceci jusqu'à ce jour. Et ce problème a attaqué la sous-région. Voilà, le Togo même, les populations, les militaires tombent comme ça, gratuitement. C'est la France qui a créé ce problème. Et le produit des Français qu'ils ont mis à la tête, c'est ça qui crée comme ça. Et la CEDEAO, si la CEDEAO veut intervenir, ceux qui ont mis le compteur à zéro, là, ça dit quoi? Il faut commencer par là. Il faut arrêter d'abord les choses. Ceux qui sont en train de troisième mandat, ça c'est fini pour eux. Là, c'est bon. Ceux qui ont mis le compteur à zéro, c'est fini. Ils terminent. Ça s'arrête aussi comme ça. C'est comment on doit aller. Maintenant, les gens continuent. Un militaire a quelque chose dans la tête pour corriger. Il ne va pas rentrer corriger. Il doit rentrer corriger. Les militaires, ils font un bon travail. Sincèrement. Nos militaires font du bon boulot. Ça, disons-nous la vérité.
D'accord.
Le général là, il veut faire quelque chose. Le Mali, le Burkina, même et quand le Tchad a fait coup d'État, la France dit quoi? Parce que ça leur produit. Donc, la France suit son intérêt. Et si jamais on se tait comme ça, Sarkozy a dit ça. Macron dit qu'ils sont là pour protéger leur intérêt. Ils ne vont jamais venir construire l'Afrique à notre place.
D'accord. Merci, monsieur Natema. Allô?
Allô. Oui, allô.
Oui, bonjour.
Bonjour.
C'est monsieur
Mouavi.
Monsieur Oui.
Oui, moi, oui. Bon.
On vous écoute.
Ok. Bon, moi, ce que je voulais dire à propos du Niger, c'est que pourquoi est-ce qu'il y a un problème, un chef d'État, un ville d'école, il faut que les militaires viennent faire un coup d'État. Si c'est comme ça, il faut changer la Constitution. Il va inscrire dans la Constitution que chaque fois qu'il y a un problème, les militaires font un coup d'État. Sinon, ce n'est pas l'ordre. On voit dans les pays développés, aux États-Unis, les chefs d'État avec le même programme. Il y en a qui vivent le budget de l'éducation pour faire la santé, le budget de l'éducation. Mais chaque fois, en Afrique, un président ne fait pas ce que les militaires veulent, il faut qu'ils interviennent. Donc je trouve que c'est pas. Avec ça, le continent ne peut jamais avancer, s'il vous plaît.
Merci beaucoup.
Donc si c'est un message à Obama, militaire, c'est de guérir, de laisser le pouvoir civil. Moi, vous savez, je suis de ceux qui ne croient pas que les militaires ont la solution au problème de l'Afrique. Ce que les civils nigériens, par alternance, ils viennent, ils vont, ils viennent, ils n'ont pas réussi à faire, je ne crois pas que c'est les militaires qui vont le faire.
D'accord. Merci, monsieur.
Peut-être qu'ils sont venus pour se remplir les poches, qu'ils nous disent la vérité.
D'accord.
Mais qu'ils ne nous disent pas que les civils, ils sont là pour régler un problème définitivement.
D'accord.
Je ne le crois pas.
Merci beaucoup pour l'appel. Allô?
Oui, allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, monsieur.
C'est monsieur?
C'est Mathieu Renou.
Monsieur Maxime, on vous écoute.
Oui, je salue vos invités. Je ne comprends pas la CEDEAO. Sinon, comme un poutiste, je veux parler du Tchadien, c'est un poutiste aussi. Il vient au Niger. Il cherche quoi? Mais c'est très grave. Donc, on n'a trouvé personne dans la CEDEAO.
Il paraît que c'est une initiative personnelle.
Pour amener quelqu'un qui est venu voir rien que tout le monde connaît. C'est dangereux.
D'accord.
Dans tous les cas, moi je trouve qu'il faut que les militaires mettent de l'ordre. Vous savez, même les grands pays, on prend même la France, que Macron incarne de nos jours. La France a été dirigée des années par des généraux, disons, par l'armée. Ça n'a pas empêché la France d'être ce qu'elle est aujourd'hui. Parce que nos chefs d'État sont, ils n'ont qu'à nous expliquer, ils sont indisciplinés. Au moins, les forces de l'ordre, ils ont une discipline, ils ont une rigueur. Et on peut compter dans la sous-région beaucoup de soldats, chefs d'État, qui sont passés par des coups d'État, qui ont fait grandir leur pays, à l'instar du Ghana, même le Mali d'à côté. Il y a beaucoup de pays. Donc, moi, je souhaiterais que la CEDEAO fasse bas la terre. Qu'elle aille plutôt supplier qu'on libère le président, l'ancien président. Je te conseille, Bazoum ou bien comment.
Monsieur Bazoum.
Ça ne m'échappe un peu.
D'accord. Merci, monsieur Maxime. Le dernier auditeur. Allô?
Oui, allô?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour. Comment vous allez?
Nous allons bien. Et vous?
Oh, c'est pas la grâce. C'est un
bon, monsieur. Monsieur.
Vous savez, quand le peuple là, se met debout, l'impérialisme disparaît, a dit Thomas Sankara. Alors, je le dis et je le réitère que l'Afrique n'est pas un appel de 1940. C'est ce que l'actuel président du Nigeria doit savoir, le vieux là. Mais non, le peuple nigérien a leur destin entre leurs mains. Mais ce qu'ils ont fait le dimanche, c'est une aléatoire. Aujourd'hui, bon, voilà maintenant que le Mali est rentré dans le jeu. Et le Mali, le Burkina Faso ne peut jamais croiser les bras et qu'on débloque que une porte étrangère qui quelque part pour venir attaquer leurs voisins. Impossible. Vous voyez, non? Il faut que les chefs de l'État, tous les chefs de l'État comprennent que ce n'est plus comme avant. C'est tout comme vraiment chez nous-mêmes au pays. Au Togo, ici, nous sommes tous des Togolais. C'est la population. Bon, pour terminer, vous parlez des accidents. Et s'il vous plaît, nos gouvernants font des efforts, mais il faut qu'ils pensent que... Écoutez, mes frères, vous allez voir quelqu'un dans ta voiture, mais il est loin, à cause des soucis. Il y a des gens qui sont sur leur moto, mais ils sont loin. Ça ne va pas. Et si le pays est bon, ça marche un peu, les accidents vont ralentir. Et quand on dit non, des mesures, tout ça, il faut qu'ils pensent que la malgouvernance aussi entraîne les accidents, entraîne aussi les morts. Donc, je lance un appel à nos dirigeants, d'avoir la crainte de Dieu, pour pencher de la population. Nous sommes là pour un petit temps. Mmh. Un jour, viendra, nous allons quitter ce monde.
D'accord.
Aucune personne n'est enterrée avec sa voiture, ni sa maison, ni ses milliards.
D'accord.
Que Dieu bénisse le Togo.
Merci à vous. Bénisse. Merci à vous d'avoir appelé. C'est donc le dernier auditeur de ce jour. Alors, peut-être un tour de table pour quelques secondes de réaction. Donatien Aweso.
Oui, je vois que nos chers auditeurs comprennent la situation actuelle. C'est la génération 2.0, hein. Il n'y a plus à nous cacher le soleil avec le petit doigt, hein. Nous comprenons un tant soit peu les événements. Donc, ce qui se passe au Niger, comme nous l'avions dit, nous ne sommes pas des pro-poutistes, nous ne sommes pas là pour encenser le renversement de l'ordre constitutionnel. Mais quand cela se passe, c'est que les populations veulent prendre maintenant leur destin en main. En l'occurrence, ici, le Niger qui veut prendre les rênes de sa propre gestion et qui dit non et niette à la France. Alors, il faut que les Français puissent comprendre que leur temps est déjà dépassé.
D'accord. Ambroisine Memedi, réaction, vous n'avez pas de réaction. D'accord. Éric Johnson.
Je vais ramasser très rapidement ce que les auditeurs ont dit. D'abord, c'est Madame Essi que j'ai trouvé très pragmatique, qui veut que les coups d'État s'arrêtent. Les coups d'État doivent s'arrêter. Ce n'est pas parce que tout le temps elle dit alternance que on a l'impression qu'elle va cautionner un coup d'État. Ça, c'est très pragmatique. Je voudrais dire qu'il ne faut pas faire de confusion. Quand on parle de coup d'État, ce n'est pas le peuple qui s'est exprimé. Là, il faut arrêter. Quand on dit le peuple va prendre son destin en main, c'est quand le peuple décide d'aller chercher le pouvoir. Mais ici, c'est des gens qui se sont organisés avec les moyens de l'État pour faire un coup d'État. Il faut arrêter cette confusion.
Soutenu par le peuple.
Non. Oui. Personne n'a soutenu. Est-ce que quelqu'un vous dit qu'il va faire un coup d'État?
Non, dans la rue.
Mais il faut qu'on vous le dise et que vous soutenez. Le peuple ne soutient pas un coup d'État. Ça arrive et après, on peut avoir des réactions. Mais il ne faut pas dire que c'est le peuple qui doit prendre, le peuple est en train de prendre son destin, mais ce n'est pas vrai.
D'accord,
il faut pas faire cette confusion. En ce qui concerne les accidents de route, il y a un auditeur qui disait que c'est pas le permis qui permet d'éviter les accidents. Mmh. Je voudrais lui dire, quand on apprend quelque chose, c'est que devant des situations difficiles, on a une réaction. Et donc, quand on va faire la conduite jusqu'à avoir son permis, c'est que à un certain moment, vous-même, quand vous êtes devant un obstacle, vous savez comment arrêter pour ne pas faire un accident.
D'accord, merci. Voilà. Isidore Akolo.
Et je voudrais dire, pour terminer oui, peut-être, rapidement. Parce que dans la nouvelle constitution du Mali, il y a l'article, je crois, 117 qui dit que tout coup d'État ou putsch est un crime imprescriptible contre l'État et contre le peuple malien. C'est ce qui se trouve dans l'actuelle constitution promulguée par Assimi Goïta et dans le même temps, Assimi Goïta soutient un coup d'État au Niger.
Alors, d'accord, merci. Isidore Akolo.
Non, moi je vais prendre le compte-pied du développement. Aujourd'hui, il faudrait que les Occidentaux, nos anciens colons, puissent comprendre que on est une nouvelle génération qui veut s'émanciper de leur. Non, arrête.
Non, Isidore a la parole.
Qui veut s'émanciper Qui veut s'émanciper de cet impérialisme. Et si il y a des gens qui peuvent porter cette adhésion ou cette idée, mais qu'il soit militaire ou quoi que ce soit, on soutiendra. Nous ne sommes pas là pour faire l'apologie des coups d'État. Mais quand on constate que nos chefs d'État ou nos organisations sont devenues des sous-fifres, je pèse bien mes mots, des sous-fifres des Occidentaux, on ne veut pas l'admettre. La CDAO n'a qu'à revoir sa copie et retourner à ses premiers rôles, qui étaient
de faciliter hein,
les échanges économiques,
les échanges économiques et créer un environnement économique propice au développement de la sous-région.
D'accord.
Ça s'arrête là. Et quand ils veulent continuer à agir de cette façon, je dis que ça deviendra une gangrène pour le développement de notre pays. Je voulais placer mon carton vert à la TVT qui célèbre sa cinquantenaire et nous disons tout nos soutiens et vivement que avec la nouvelle grille et qu'on puisse faire des productions originales comme on constate dans d'autres pays et bonne fête et bon anniversaire
à la TVT, la télévision nationale. Ambroisine Mémédé.
Alors, je veux dire qu'au-delà de ce qui se fait, lutter contre le djihadisme et tout, les coups d'État, il va falloir s'asseoir et se poser la question, qu'est-ce qui amène ces coups d'État véritablement? Réfléchis là-dessus. Je l'ai dit tantôt que la famille des Poutis s'agrandit. Elle s'agrandit, elle se soutient. Et face à cela, il y a ce que nous appelons, nous accrochons la démocratie. En même temps, il y a ces choses qui se font. Je pense que ça risque d'entrer dans les habitudes. Il va falloir réfléchir sérieusement et se dire, mais qu'est-ce qui cause le problème? Et à l'interne, au sein de l'armée, gérer les frustrations. Gérer les frustrations au sein de l'armée, équiper notre armée. Et je pense que c'est aussi bien face au djihadisme. Mais parlant du carton,
allez-y directement.
Alors, c'est un carton vert que je vais partager en deux, permettez-moi. La première moitié, merci. Et à toutes les femmes, parce que nous venons de fêter, la journée de la femme africaine, à toutes ces dames battantes, à toutes ces dames cachées, ignorées, bafouées, trouvées, et dans mes propos, tout le courage de rebondir. Et que vivement le ciel vous soutienne. Et à l'endroit de l'Association des femmes professionnelles des médias, qui vient de mettre sur le tapis une question très sérieuse, la question du harcèlement.
C'est la deuxième moitié du
rapport. La première moitié qui. La dernière partie.
C'est la dernière partie.
Et sur le harcèlement, il va falloir réellement, c'est une question très importante, il va falloir qu'on arrive à connaître où s'arrête la drague et quand est-ce que vous franchissez le Rubicon. La deuxième moitié de mon cas, je l'adresse à un confrère et qui est journaliste, il s'appelle Chabouré, qui fait de l'apiculture. J'ai trouvé que c'est quelque chose de très bien, qui a un impact positif sur la santé, sur l'environnement et sur notre agriculture. Et vivement, carton vert pour Chabouré.
D'accord,
pour
carton vert. Donation Awesso, carton.
Oui, j'ai pas de carton, mais c'est pour souhaiter un bon début de mois d'août à tout le monde, tous les Togolais, surtout à nos administrés de la commune Golf 5, sans oublier un confrère qui nous suit actuellement depuis Afagnan, c'est depuis mon propre FM, Afagnan Gleta, Jean-Marie Gonzalves, qui nous salue.
D'accord.
Et salutations à vous tous, et que le mois de août nous apporte paix et joie, bénédiction.
D'accord. Alors, Eric Johnson, carton.
Un carton vert à la filière
en ananas. Oui, votre micro ne marche pas encore, rapidement.
Ah, d'accord. Un carton vert à la filière ananas, et je crois que on aura le temps d'en parler parce que c'est une filière qui est très porteuse, mais que nous méconnaissons, nous tous. Hein.
D'accord.
Il faut y aller. Hein,
merci à vous. Eric Johnson du journal L'Union, Isidore Akolor du journal Actu Express, Donatien Awesso, analyste politique, Ambroisine Mémédé de l'agence Savar News. Merci à vous. La technique a été assurée par Thomas Datevi. Mise en ligne, Jero Akucha. Je suis Fousseni Saïbou. À très bientôt.
L'un contre l'autre, pour un oui ou pour un non. Que sais-je encore, c'est le danger. Des vies en danger. pour des choses qu'on ne comprend guère qui arrivent. Arrêtez tout ça, faut pas faire si mal. Nous demandons pardon de tout cœur à ceux qui ont souffert, souffert en silence. C'est le malin qui nous emporte. Faites de l'or pour nous, mais pour le Seigneur. Apaisez ses souffrances et ses violences, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient morales. Car c'est l'Éternel qui sauve encore.
Faut pardonner cette fois
70
fois.
Nous implorons sa miséricorde. Faut pardonner cette fois 70 fois. Faut savoir que colère entraîne querelle. Il faut y renoncer même si c'est dur. C'est l'indulgence, la bonté de cœur qui nous faut à tous pour s'armer d'amour et mieux tolérer ces dérapages pour recommencer une vie meilleure. Les laisser se battre l'un contre l'autre pour un oui ou pour un non. Que sais-je encore, c'est le danger. Des vies en danger pour des choses qu'on ne comprend guère qui arrivent.
On sait quand ça commence, on sait pas quand ça finit.
Faites de nos pour nous, mais pour le Seigneur. Apaiser ses souffrances et ses violences, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient morales. Car c'est l'Éternel qui sauve encore. Car c'est l'Éternel qui sauve encore. Cette fois, ce sont 10 fois.
Yeah, pardonner.
Cette fois, ce sont 10 fois.
Il faut pardonner.
Pour recommencer.
Il faut pardonner.
Car c'est l'Éternel qui sauve. Nous implorons sa miséricorde. Faut pardonner cette fois 70 fois. Faut savoir que colère entraîne.